Bonjour. En ce premier mercredi du mois, comme chaque mois, nous nous retrouvons à 12h30 ou 17h30 sur Fréquence 7 pour l'émission Clair d'Étoile. Aujourd'hui, cette émission nous est présentée par Denis de Clair d'Étoile et Brin de Jardin. Bonjour Denis.
Et par Françoise, également de Clair d'Étoile. Bonjour Françoise.
Comme à chaque fois, nous présenterons d'abord un bref panorama de ce qu'il sera possible de voir dans le ciel, à l'œil nu ou aux jumelles, dans le mois qui vient. Puis nous ferons suivre par un focus consacré cette fois aux pouponnières célestes. Cela demandera quelques mots d'explication. Denis, que verrons-nous dans le ciel au cours de ce mois de mars?
Eh bien, depuis le 24 février, la planète Mars est entrée dans la constellation du Taureau et c'est très intéressant.
Ah, on fait de l'astrologie maintenant?
Je vois, on taquine. Non, ce que je trouve intéressant, c'est que Mars se rapproche doucement, visuellement bien sûr, ce n'est qu'une illusion d'optique, d'Aldébaran, qui est l'étoile principale de la constellation du Taureau. Et Aldébaran ne manque pas d'intérêt. C'est une étoile qui, à l'origine, était assez semblable à notre Soleil, quoique un peu plus petite, mais qui arrive en fin de vie. Un bon 6,5 milliards d'années, et il lui arrive ce qui nous arrivera à nous d'ici 4 à 5 milliards d'années.
Elle a épuisé tout son hydrogène.
Oui, et ce faisant, elle commence à gonfler de façon monstrueuse en consommant les dernières réserves qui lui restent. Ceci, ajouté au fait qu'elle est assez proche de nous, 65 années-lumière, fait qu'elle est une des étoiles les plus brillantes du ciel et arbore une magnifique teinte rouge. Nous aurons donc pendant tout le mois de mars une rivalité de deux magnifiques astres rouges voisins, Mars et Aldébaran. Et ce sera d'autant plus spectaculaire que le point rouge brillant de Mars apparaîtra juste à côté des Pléiades à droite et que, en particulier du 9 au 10 mars, si on prolonge en ligne droite l'axe Pléiades-Mars-Aldébaran, on tombe sur Bételgeuse.
Bételgeuse qui apparaît aussi comme Aldébaran et pour la même raison, car c'est également une étoile en fin de vie, sous forme d'un point rouge très brillant. Mais tu n'as pas précisé ce qu'étaient les Pléiades.
Les Pléiades apparaissent comme un petit groupe de 5 à 7 étoiles très brillantes et serrées. Mais nous y reviendrons dans le focus. Le 19 mars, la Lune viendra compléter cette superbe palette lumineuse en venant raser les moustaches de Mars. Ne manquez pas ce magnifique spectacle dès le début de la nuit.
Et les autres planètes, Jupiter et Saturne en particulier, on les a oubliées?
C'est vrai. Le mois précédent, elles étaient cachées de l'autre côté de notre planète. Elles n'apparaissaient dans le ciel que de jour, très proches du Soleil, ce qui les rendait bien sûr invisibles. Mais pour les courageux qui se lèvent tôt et disposent d'un horizon sud-est dégagé, disons pour fixer les idées dans la direction du Mont Ventoux, dans la deuxième quinzaine de mars, Jupiter et Saturne se laisseront voir entre 5h30 et 6h, assez bas sur l'horizon. C'est Saturne, la moins brillante, qui ouvre la marche, et comme d'habitude, on repérera que ce sont des planètes à leur absence de scintillement.
En effet, les étoiles que l'on voit sous la forme de points minuscules scintillent, c'est-à-dire clignotent sous l'effet des perturbations atmosphériques, ce qui n'est pas le cas des planètes visuellement plus grosses. Donc, encore pas mal de choses à contempler ce mois-ci. Que voit-on d'autre?
On en a déjà souvent parlé au cours des mois précédents. Les belles constellations d'hiver, dont la magnifique Orion. Et une petite curiosité visible encore pendant la première quinzaine, la lumière zodiacale qui se présente sous la forme d'une faible lumière de forme triangulaire à l'horizon ouest après le coucher du soleil. Marilyn l'avait déjà évoqué le mois passé. Il s'agit de la lumière du soleil diffusée par de fines poussières, résidu principal de comètes. Comme presque tous les mois, admirez aussi la lumière cendrée de la Lune. C'est le résultat du clair de terre qui illumine faiblement la partie nocturne de notre satellite. Pour le mois de mars, elle sera observable aux environs du 15 et du 16. Et enfin, n'oubliez pas le passage à l'heure d'été, le 28. Une heure de sommeil en moins pour les soirées d'été plus longues.
Bien, il est temps de passer au focus. Si j'ai bien compris ce que tu viens de nous dire, les Pléiades sont concernées.
Eh oui, mais pas seulement elles. Les Pléiades représentent un exemple assez spectaculaire de ce que les astronomes appellent les amas ouverts. Ces amas constituent des regroupements d'étoiles physiquement très proches. au contraire des constellations classiques dans lesquelles les regroupements ne sont le plus souvent qu'une illusion d'optique.
Si on parle d'amas ouverts, cela veut-il dire qu'il existe également des amas fermés ?
Oui, on utilise plutôt le terme d'amas globulaire. Nous pourrons peut-être en parler une autre fois, parce que ce sont des objets très intéressants, mais malheureusement, ils ne sont généralement pas, ou du moins très difficilement, visibles à l'œil nu, car très éloignés de nous. Les amas ouverts comportent souvent quelques centaines à quelques milliers d'étoiles, toutes du même âge, est suffisamment proche pour être reliée par la gravité. Elle semble constituer une fraternité d'étoiles.
Plutôt une sororité. Ce qui implicitement signifierait une origine commune, née ensemble au même endroit. Il existerait donc des maternités ou des pouponnières d'étoiles. D'ailleurs, je crois qu'il en existe une encore très facile à voir.
Bien sûr, et nous en avons déjà souvent parlé à ce micro. Il s'agit de la Grande Nébuleuse, située dans la constellation d'Orion, assez aisée à observer à la jumelle. Profitons-en, c'est le dernier mois que nous pouvons la voir correctement. Ensuite, il nous faudra attendre novembre prochain. Aux environs de 21h, la constellation d'Orion apparaît au sud-ouest sous la forme d'un cerf-volant, un losange quasiment vertical. En haut, la rouge bételgeuse, dont nous avons parlé en début d'émission, puis trois étoiles brillantes horizontales qui forment le petit axe du cerf-volant. Puis, enfin en bas, Rigel, une géante bleue. Légèrement en dessous à gauche des trois étoiles brillantes de la petite diagonale, on distingue trois étoiles moins brillantes, très serrées et orientées quasiment du haut en bas. C'est sur elles qu'il faut pointer vos jumelles. Si la nuit est bien noire, évitez les villes et leur pollution lumineuse, ainsi que la présence de la Lune, donc de préférence dans la première quinzaine du mois, vous verrez distinctement un nuage diffus blanchâtre piqueté de nombreuses étoiles. Félicitations, vous êtes en train d'observer M42 de son petit nom, un gigantesque nuage d'hydrogène en train de s'effondrer sous l'effet de sa propre masse et de donner naissance à de multiples étoiles comme celles que vous êtes en train d'observer.
En train de naître, cela ne veut pas dire juste maintenant. Il faut compter d'une part 1500 ans pour que nous parvienne sa lumière, due à la distance de ce nuage à la Terre, et d'autre part environ 1 million d'années, période où les processus de naissance ont démarré. Ce qui reste quand même très court à l'échelle astronomique.
Eh oui, l'humanité était elle aussi en plein essor. Et comme les premiers hommes, les étoiles d'Orion sont encore relativement groupées près de leur lieu de naissance. Mais des mouvements erratiques ne vont pas tarder à les séparer. Les sœurs vont prendre leur indépendance.
Elles vont quand même prendre leur temps et nous ne les verrons pas. En revanche, il est possible de contempler d'autres familles, encore proches, mais en cours de séparation plus avancée.
Eh oui, et c'est là que nous retrouvons les Pléiades, que les anciens appelaient d'ailleurs, non sans raison, les sept sœurs. Là aussi, elles sont facilement repérables à l'œil nu. Selon la qualité de votre vue, un groupe de 5 à 7 étoiles assez serrées, actuellement visuellement proche de Mars. Encore une fois, utilisez vos jumelles et plongez au cœur de l'amas M45, c'est son nom officiel. Plusieurs dizaines d'étoiles brillantes, presque toutes identiques, des jeunes étoiles bleues, souvent enveloppées dans un nuage d'hydrogène, vont littéralement vous sauter aux yeux. Au télescope, on en a dénombré près de 3000.
Une belle famille! Leur brillance est liée à leur jeunesse relative, moins de 100 millions d'années, ce qui à l'échelle de l'univers et même de la Terre n'est qu'un clin d'œil. C'est la fin du règne des dinosaures.
Leur brillance et la facilité que nous ayons de les percevoir à l'œil nu est également la conséquence de leur relative proximité. À peine 400 années-lumière, soit un quart de la distance de la nébuleuse d'Orion. Malgré tout, elles sont déjà beaucoup plus dispersées que les étoiles d'Orion. Comme dans toutes les familles, le temps passant, les enfants prennent leur autonomie et commencent à se séparer.
Les astronomes estiment quand même qu'il faudra encore 250 millions d'années pour que l'amas soit très nettement dispersé. Ceci nous conduit d'ailleurs à penser qu'il doit bien exister des ex-amas ouverts, tellement anciens que l'on ne peut plus en reconnaître la forme car tous les composants sont complètement séparés. On peut même se demander si notre Soleil ne serait pas né lui aussi dans un de ces amas. Mais que seraient devenues ses sœurs ?
Tu as parfaitement raison. Il semble bien que les étoiles naissent généralement par paquets. mais notre vénérable Soleil a 50 fois l'âge des Pléiades, et ses compagnes se sont donc dispersées depuis belle lurette. Les astronomes ont bien tenté de repérer quelques-unes de ses parentes, mais trop de temps a passé pour pouvoir les identifier avec certitude. En revanche, on peut trouver des cas intermédiaires. Tout près des Pléiades, au cœur de la constellation du Taureau, se trouve l'amas des Hyades, environ 300 étoiles, âgées de 800 millions d'années. Et dans la constellation du Cancer, invisible à cette époque, l'amas du Canard sauvage, mon préféré, lui aussi d'un âge équivalent. Enfin, et encore plus âgé, il semble que la Grande Ourse soit le résidu d'un amas très ancien. Mais là, les étoiles sont très largement espacées, encore plus d'ailleurs qu'on peut le croire, car elles sont réparties dans les trois dimensions.
Dommage, je reste sur un regret. J'aurais bien aimé pouvoir contempler une ou plusieurs sœurs du Soleil. C'est triste de penser que ce sont peut-être quelques-unes de ces faibles étoiles que nous voyons dans le ciel nocturne, sans être capables de les identifier avec certitude. Bon, on ne va pas se séparer sur une note mélancolique. Ce sont malgré tout de bien belles histoires de famille. Et pour conclure, un brin de poésie. Je me lance. Mignonne, allons voir si la rose qui ce matin avait déclose sa robe de pourpre au soleil a point perdu cette vesprée, les plis de sa robe pourprée, et son teint au vôtre pareil.
Oh, c'est trop gentil, il ne fallait pas.
Ce n'est pas spécifiquement pour toi, tu sais. Il s'agit d'un célèbre poème de Pierre de Ronsard. Au XVIe siècle, avec 6 autres compagnons, il avait fondé un groupe de poètes et d'écrivains nommé...
La Pléiade. Merci Françoise pour ce rappel.
Merci Denis, et à la prochaine fois.